Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trois questions dans l'actualité ce matin. Allez-vous être dissuadé de commander des petits colis chinois ? C'est ce week-end que va entrer en vigueur la nouvelle taxe de 2 euros pour dissuader de faire des achats sur ces plateformes. Qui va payer la facture après les crues qui ont fait de gros dégâts, vous verrez, sur les routes dans l'ouest de la France ? Et êtes-vous frustré de votre orientation professionnelle ? 4 lycéens sur 10 regrettent d'avoir trop écouté leurs parents au moment de choisir pour leur futur.
Et on vous dit tout ce matin sur la taxe sur les petits colis.
Oui, la taxe française de 2 euros qui va entrer en vigueur dimanche en attendant la taxe européenne un petit peu plus tard dans l'année pour lutter contre la concurrence déloyale et les prix dérisoires de ces petits colis commandés sur les plateformes asiatiques, Solène Leroux.
On l'appelle la taxe petit colis parce qu'elle s'applique aux envois de moins de 150 euros expédiés depuis un pays hors Union européenne. Mais en réalité, elle va concerner ce que contient votre colis. Si vous achetez par exemple sur Temu ou Shein deux pantalons et une lampe, il y aura une taxe de 4 euros car ce sont des articles de catégories différentes. Par contre, si vous avez craqué pour trois t-shirts, là, ça sera uniquement 2 euros, peu importe la quantité. Donc, c'est vraiment le nombre de produits différents qui détermine le montant de la taxe. Alors attention, ça ne sera pas à vous, consommateurs, de payer directement, sauf à de très rares exceptions. Ce sont bien les plateformes qui devront le faire. En revanche, elles pourraient décider de revoir leurs tarifs à la hausse pour compenser ce coût supplémentaire.
On est en plein salon de l'agriculture. Il y a du nouveau ce matin concernant l'accord avec les pays du Mercosur. L'accord controversé sous le coup de la justice européenne. Il y a l'Uruguay et l'Argentine qui sont devenus ces dernières heures les deux premiers pays sud-américains à le ratifier. C'est au printemps qu'il va y avoir du nouveau dans l'affaire du petit Émile. On vous en parle depuis ce matin, 3 ans après sa mort dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, toutes les personnes qui étaient présentes dans les parages ce jour-là vont devoir se soumettre à un test ADN. Il y en a déjà 4 qui ont été prélevés afin d'effectuer des comparaisons avec les traces ADN étrangères à la famille qui ont été retrouvées sur les vêtements du petit garçon. On reparle ce matin de l'affaire du meurtre de Matisse. Souvenez-vous de cette adolescente de 15 ans poignardée à mort, c'était en 2024 à Châteauroux, par un autre adolescent, meurtrier condamné à 8 ans de prison ferme. Eh bien aujourd'hui, Julie Brault du service police-justice à RMC, c'est le deuxième volet de cette affaire puisque c'est sa mère, la mère du meurtrier, qui sera jugée à son tour, suspecté d'avoir frappé Matisse.
Oui, à l'époque, cette mère de 37 ans avait vu son fils se saisir d'un couteau dans l'appartement familial, puis elle l'avait suivi avant de le regarder, immobile, poignardé Matisse à plusieurs reprises. À aucun moment, elle n'a tenté de s'interposer. Elle est même suspectée d'avoir giflé l'adolescent alors qu'il gisait sur le sol. Des coups qui ne sont pas liés au meurtre, mais qui ont été commis, je cite, alors que Matisse était agonisant, selon le procureur de Châteauroux. La mère de famille, qui risque jusqu'à 3 ans de prison, sera aujourd'hui jugée à huis clos lors d'un procès sous haute sécurité. Depuis qu'elle a été prise à partie et insultée l'année dernière après la condamnation de son fils pour meurtre, elle avait dû être exfiltrée du tribunal par une escorte policière.
Énième affaire de drones russes. Et il en sera question aujourd'hui avec la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en Suède. Au moment où on apprend qu'un drone, certainement russe, disent les Suédois, a été neutralisé cette semaine alors qu'il était près du porte-avions Charles de Gaulle, le navire français qui est en mission en ce moment au large de la Suède pour la première fois d'ailleurs dans cette région du monde. Cette question donc ce matin, qui va réparer et surtout qui va payer les dégâts sur les routes après les inondations dans l'ouest de la France? On est en pleine décrue, ça s'accélère un peu, c'est la bonne nouvelle ce matin. Mais on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros pour remettre en état les routes ravagées par les crues dans le secteur de la Réole et de Langon, les deux villes inondées par la Garonne. C'est ce que nous dit Pierre Borges, le correspondant d'RMC dans le Sud-Ouest.
Des nids de poules, voire des cratères en bord de route, c'est ce que constate Patrick Monteau dans la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Et il ne compte plus les fissures sur la voirie.
Et ça, c'est du faïençage. Donc ça, c'est dû à la stagnation d'eau. Et ça va s'effriter. Il faudra refaire les revêtements. Là, au Bas-Mont, il y en a vite pour 15-20 000 euros. Faut pas rêver.
Le vice-président en charge de la voirie chiffre les dégâts à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'instant.
On espère que l'État aidera en ce sens, quoi. S'il n'y a pas d'aide, ça va impacter le budget de la collectivité. Ça peut pas être autrement.
À quelques kilomètres à Langon, l'estimation des dégâts sur la voirie est toujours en cours.
La puissance de l'eau a soulevé le tapis d'enrobé. Des plaques entières de la voirie ont été complètement dégradées.
Mais Valérie Téchenet, directrice des services techniques, anticipe une facture d'au moins plusieurs milliers d'euros. Cela aura là aussi un impact sur le budget de la commune.
Des projets qui étaient prévus pour 2026, eh bien, on va les décaler pour pouvoir absorber ces dépenses-là qui n'étaient pas prévues.
Les travaux pour remettre les routes en état débuteront dès cette semaine à Langon.
Il est 8h05 sur RMC. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin au 32-16 à cette étude sur l'orientation des jeunes. On est en pleine période, vous le savez si vous êtes parents, en pleine période des vœux sur Parcoursup. Et visiblement, eh bien, les parents sont un peu trop présents. Il y a 4 lycéens sur 10 qui regrettent de trop écouter leurs parents. Constat qui perdure d'ailleurs un petit peu plus tard chez les jeunes adultes qui regrettent de ne pas avoir écouté leurs propres envies. Tiens, des exemples écoutés avec Lou Garnier pour RMC.
Quand on demande à Lily son métier de rêve.
La mode, j'aimerais trop. Vraiment, c'est un truc qui me passionne.
Mais la mode, c'était un refus catégorique pour sa mère. Alors dans ses vœux Parcoursup, Lily n'a demandé que des licences de droit.
Je sais qu'elle dit pas ça pour détruire mes rêves. Elle dit ça parce qu'elle est réaliste et en vrai, elle a raison. Dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on veut non plus. Si je fais du droit, c'est aussi pour ma mère, parce que je la rends fière.
En classe de première, Auréa ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Mais Parcoursup, c'est déjà un sujet de conversation avec ses parents, qui ont quelques idées d'orientation pour elle.
Ils me donnent des options. Ils me voient dans un côté artistique. Ma mère, elle m'a même sorti faire des vitraux. Elle dit qu'il faut se démarquer, faire des choses différentes. J'écoute quand même, parce qu'ils ont souvent des bons conseils.
Ivana, elle, se réoriente pour devenir prof d'histoire, après avoir suivi les conseils de ses parents et fait une licence de droit.
Trop compliqué pour moi, c'était un petit peu, il y avait une grosse pression à l'université, même à la maison. Et là, j'ai décidé d'être sur un truc plus simple, plus cool.
Selon l'étude, près d'un jeune sur deux dit être influencé par sa famille dans son choix d'orientation.
On va revoir les skieurs des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, à peine terminés, les JO, la saison de ski alpin reprend déjà ce week-end en Allemagne pour les garçons, en Andorre pour les filles. Pour se racheter après des Jeux ratés, on peut le dire, avec une seule médaille, celle de Roman Miradoli, David Alias.
Pour Roman Miradoli, les Jeux, c'est presque déjà du passé.
Je suis passée en mode Coupe du Monde. J'ai envie d'assumer les ambitions que j'avais déjà en début de saison. Les Jeux, c'était une étape. La saison de Coupe du Monde n'est pas terminée. J'ai envie d'aller chercher devant, à la fois en descente et en super-G.
La vice-championne olympique à bord de la compétition plus légère, décomplexée.
Le statut, il change forcément un petit peu. Ça a fait sauter quelques verrous dans le sens où je me suis dit, ça y est, mentalement, je suis capable de gérer ces émotions et de pouvoir me focaliser sur mon ski. J'ai encore plus envie de voir jusqu'où je peux aller.
Pour Clément Noël, Nils Allègre ou Paco Rassa, revenu bredouille d'Italie, la Coupe du Monde sera le moyen de rebondir, selon David Chastan, directeur du ski alpin à la FFS.
Sur un événement après-jeu, je crois bien rester focus sur ce qui reste à faire. Il y a encore beaucoup de courses. Ceux qui ont fait les Jeux et qui n'ont pas réussi à aller chercher des médailles ou qui ont été frustrés, c'est rester dedans et continuer sur sa lancée du niveau qu'il a sur les courses en Coupe du Monde.
Honneur aux femmes aujourd'hui avec la descente à Zolde, avant les hommes demain à Garmisch.
Et puis on suivra à la mi-journée sur RMC le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa en football. En Ligue des Champions, ce sera soit le Barça, soit Chelsea, vous savez, pour Paris. En Ligue Europa, on pourrait avoir un choc entre Français, puisque Lyon fait partie des deux adversaires potentiels de Lille, qui s'est qualifié hier soir.
C'était le journal de Quentin Vinet.